Et en fait, c'est ça qui est agréable, en fait, c'est d'avoir toujours des envies et d'avoir toujours des idées et de continuer. Et après, le reste, c'est pas grave, tant qu'on vit de ce qu'on aime, je pense que c'est ça le plus important.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Pour ce 15e épisode des Mains Libres, on reste en Gironde à la rencontre d'Amélie, qui fait partie du collectif d'artisans Les Arts Typiques, à Sauveterre de Guyenne. Depuis une dizaine d'années, Amélie fabrique des objets de décoration sculptés dans des calebasses, qui sont des courges qu'elle cultive et fait sécher en amont. Dans cet épisode, elle nous raconte le lancement de son activité professionnelle au sein du collectif d'artisans et les choix de vie qui accompagnent son métier au quotidien. On te souhaite un bon moment en son compagnie.
Bonjour Amélie.
Bonjour.
Merci de nous recevoir à la Maison des artisans, on dit
comme
ça ?
Oui, c'est le regroupement de deux associations, donc les arts typiques,
ouais.
Où là c'est artisanat d'art et producteurs locaux. Et donc c'est la partie vente dans la boutique et il y a trois ateliers de production et de transmission. Et il y a une autre association, donc c'est les ateliages et là c'est que de la transmission de savoir-faire et un peu de production.
Ok, d'accord, on va super. En parler après. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton atelier, ton savoir-faire ?
Oui, eh ben, je m'appelle Amélie Tisserand, je travaille la calebasse. Je ne sais pas exactement quel nom on donne à ce métier, parce que j'ai appris ça en autodidacte, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école. Ça m'est tombé un peu dessus comme ça. Et donc je crée essentiellement des luminaires à partir de calebasse. Donc c'est des courges que je cultive, que je fais sécher. Et après, je les sculpte, je les grave, je les troue. Et je fais des petits objets de décoration aussi. Des commodes, des boîtes, photophores.
Super. Et qu'est-ce que tu as fait avant de te lancer dans ce projet-là, dans ce métier ? Est-ce que tu as eu des formations, même du coup, qui n'avaient pas de rapport, ou bien même avec l'art ?
Alors moi, déjà, j'ai un bac littéraire art plastique. Donc j'ai déjà été dans la branche artistique par mon bac. Après, j'ai fait une école d'infographiste. Donc, j'ai commencé par un BTS en communication visuelle. Et après, j'ai bifurqué sur un diplôme européen en infographie multimédia. Donc je suis plutôt spécialisée en web design, 3D. Voilà, ça c'était vraiment le plus gros de ce que j'ai appris dans mon école. Et j'ai été web designer pendant 2 ans avant de faire le métier de la calebasse.
Et du coup, comment t'en es arrivée à faire ce revirement de situation, à découvrir la calebasse ? J'imagine que peut-être tu connaissais pas trop avant. Comment ça s'est passé ?
Du coup, donc, j'étais web designer et puis j'ai arrêté mon métier au moment où j'ai eu mon premier enfant. J'avais pas du tout envie de m'avoir les bouchons le matin, poser mon enfant à la crèche tôt. J'avais envie de le voir grandir. Donc il y a plein de circonstances et puis une mésentente aussi patronale qui a fait que je suis partie. Et mon fils avait 1 an, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais bon voilà, je prenais le temps de m'occuper de lui. Mon conjoint, lui, il fabrique des instruments de musique en calebasse, il joue de la kora, il est professeur de goni. C'est une petite guitare africaine, il y a moins de cordes que la kora, il est percussionniste aussi. Et moi, je fais de la danse africaine depuis longtemps. Donc, suite à un voyage au Burkina Faso, il avait ramené un goni. Et puis, on avait ça à la maison. Donc, on avait quelques calebasses. Il fabriquait ses instruments pour ses élèves. Et on en avait une cassée. Donc, on ne savait pas trop quoi en faire. Il ne pouvait pas faire d'instruments avec. Et on a décidé de faire une lampe pour nous. Voilà. Et puis, ça m'a plu. J'ai trouvé que le matériau
étaient très agréables. C'est un peu comme le bois, il y a une odeur, il y a des textures différentes, elles ont toutes une forme différente. Ça reste quelque chose de très naturel, donc moi ça correspond aussi à mes convictions de travailler des choses naturelles, d'être au plus proche de la nature et de faire les choses de manière écologique. Donc je trouvais que ce matériau regroupait un peu tous les critères qu'il fallait. Et le rendu était sublime. Enfin, quand la lumière passe au travers, ça crée des projections tout autour. Et je trouve que ça a vraiment un côté poétique. Enfin voilà, ça fait de superbes ambiances. Et ça, là, je suis tombée amoureuse de la calebasse, en fait. Et voilà, donc elle est venue à moi comme ça, par un accident, par une calebasse cassée, par des circonstances que je ne savais plus trop quoi faire, que je n'avais pas du tout envie de revenir à des horaires de bureau et des embouteillages. Et voilà, et du coup, bah, l'artisanat, je trouve que c'est un bon compromis, parce que ben, je peux prendre le temps que je veux, comme je veux, travailler quand j'en ai envie, s'il faut, et en plus, de manière éthique aussi. Ça, je trouve que c'est très important de garder des valeurs, en fait, qui sont propres à chacun. Hein. Mais, enfin voilà, je travaille quelque chose de naturel, je le cultive, je le fais pousser dans mon jardin, en permaculture, et du coup, c'est chouette, et puis j'ai du temps pour moi, et je fais un peu tout comme je veux.
Ouais. Au-delà de la liberté dont on travaille, ça m'amène à la question sur les métiers manuels, t'as quand même tu as dans les mains littéralement l'objet que tu vas transformer, vendre, etc. Et pas sur un écran comme tu
disais. Oui, voilà. Avant, non, mais c'est ça qui me manquait. Hein. Quand j'étais web designer, c'était le travail de la matière, en fait, toucher de la matière. Moi, j'aime peindre, j'aime dessiner, j'aime sculpter, j'aime expérimenter plein de choses, les matériaux. Et du coup, quand j'étais web designer, vraiment. C'est ce côté palpable qui m'a énormément manqué et que j'ai retrouvé justement à travers l'artisanat d'art. Et je trouve que l'artisanat d'art, c'est aussi un bon compromis entre un peu être artiste, parce qu'on est tout le temps en train de créer des choses, d'inventer, et un savoir-faire, en fait, une sorte de rigueur, avec des outils aussi, où quand on a des bons outils, on travaille bien. Et voilà, je trouve que c'est un bon compromis de plein de choses.
Et ça, on peut en parler un peu des outils, savoir qu'est-ce que tu utilises. Et l'autre jour, tu nous disais que tu faisais aussi des stages où tu apprenais à des gens à exercer ton savoir-faire, parce que du coup, tu dis que tu es autodidacte, que tu as appris par toi-même, mais du coup, tu as créé un savoir-faire, en fait.
Oui,
tu essaies de transmettre.
C'est ça. Bon, j'ai pas créé de moi-même, parce que ça existe. La calebasse, déjà, elle existe partout dans le monde. On la trouve en Amérique latine, dans les Antilles, à La Réunion, en Afrique, en Asie, enfin partout. En France, ça s'est perdu. On faisait des gourdes avec. Ça servait de gourdes au berger. Donc, pour mes outils, moi, c'est très simple. C'est une Dremel, donc c'est une espèce de petite perceuse avec un moteur et une sorte de stylo où on peut mettre forer des fraises, différentes formes, tailles, et une mini scie sauteuse qui me permet de découper et d'ajourer mes calebasses et de sortir les graines aussi, d'ouvrir. Et elle est très fine, donc j'ai pas de perte de matière, ce qui fait que quand je fais des boîtes, mon couvercle retombe parfaitement au bon endroit.
D'accord.
Voilà, donc avec ces deux outils, donc ça demande pas beaucoup de place.
Ouais.
Et j'en ai acheté quelques-unes. Et du coup, j'essaye de transmettre. Donc je fais des stages de temps en temps pour apprendre déjà aux gens à découvrir la calebasse, puisque du coup, ça s'est un peu perdu. Et puis, s'amuser avec différents outils. Les enfants adorent. Alors, quand je fais des ateliers enfants, alors trouer, tout ce qui est faire des trous, ça, c'est jubilatoire pour eux. Ils adorent ça.
Mais ce que tu fais, ton métier, c'est aussi de l'agriculture et de l'artisanat. Tu cultives quand même, du coup, les courges. Est-ce que tu apprends ça aussi dans les formations ou pas ?
Non, je ne forme pas à l'agriculture. Déjà, moi, j'essaye déjà de me former moi. Chaque année, bon, j'apprends un peu plus. Et puis, donc avec mon conjoint, on fait beaucoup de permaculture dans notre jardin. Donc, il y a des années, je dois lutter contre les escargots et les limaces. Donc, maintenant, nous avons pris des canards coureurs indiens qui mangent beaucoup. Comment on appelle ça, des gastéropodes.
Ouais.
Et sans abîmer les cultures. Donc, on a réussi à trouver une solution. J'ai des mulots aussi qui ravagent par-dessous mes calebasses. Donc j'ai un chat. Voilà. Donc à chaque problème, sa solution. Hein. C'est un peu ça la permaculture. C'est vivre en harmonie et cultiver en harmonie avec tout ce qui va avec, hein, la nature, la faune, la flore, les insectes, tout. Puis, en fait, je fais pousser mes calebasses dans les excréments de mes chèvres, moutons et poules. Voilà. Donc, tout ça, c'est un cycle fermé et vertueux.
Ouais.
Et ça fait 3-4 ans avec mon conjoint qu'on a acheté une maison avec un grand terrain et que, voilà, on essaye de faire ça. Moi, ça fait quand même plus d'années que je travaille. Ça fait 9 ans là, que je travaille la calebasse. J'ai toujours réussi à cultiver un peu, mais j'avais un tout petit jardin avant. Donc, maintenant... J'essaye de la cultiver beaucoup plus et d'être quasiment autonome sur ma production dont j'ai besoin à l'année. Voilà.
D'accord.
Mais je ne forme pas à la permaculture, je laisse ça le soin à d'autres professionnels de le faire.
Peut-être on parle un peu du collectif.
Ouais.
Donc tu nous disais que ça fait 9 ans que tu travailles de la calebasse, mais pas autant que tu travailles ici.
Oui.
Comment ça s'est passé, l'installation du collectif, cet atelier et la rencontre avec les autres artisans ?
Alors, déjà, c'était une volonté de l'ancien maire de Sauveterre de Guyenne de faire venir des artisans dans ce bâtiment parce qu'il était un peu laissé à l'abandon depuis presque 2 ans. Donc, du coup, nous, on était 6 à la base à vouloir monter le collectif avec la mairie. Donc, il y avait un vanier, Julia et Anastasia de la ferme aux fleurs, enfin, aux herbes, etc., pardon. Il y avait Phil, qui est souffleur de verre, avec qui j'ai partagé l'atelier pendant 2 ans, moi-même, et un maroquinier, Nico, et une tisserande aussi, d'ailleurs, Hélène. Et donc au départ, on a monté l'association, on a investi les lieux, le bâtiment. Il y a eu un long dialogue aussi avec la mairie sur comment nous, parce que c'est un bâtiment communal, comment on allait payer notre loyer, parce qu'à la base, le maire voulait donc que ce soit un loyer monnayé. Ouais. Nous, les artisans, nous ne gagnons pas de l'argent en continu, la même somme tous les mois. Enfin, c'est un métier très aléatoire et assez incertain selon les mois. Et du coup, en fait, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Et donc, les artisans, on a du savoir-faire, on a du temps, on aime transmettre et on a proposé à la mairie que notre loyer passerait par ce biais-là plus que par de l'argent. Et nous faisons des interventions dans les différentes écoles du village. Nous les faisons tous venir, que ce soit les élémentaires, quand nous créons notre événement qui s'appelle Rencontre des savoir-faire. Et donc là, on fait des ateliers toute la journée. Et donc les enfants, qui sont 180 élèves, ils voient 4 artisans. Et donc au fil de leur scolarité, comme on est 14 maintenant, ils peuvent voir presque tout le panel de métiers que nous, on leur propose. Cette année, sur les Journées européennes des métiers d'art, donc les GEMA, on a fait venir les maternelles. Donc on a fait des ateliers dans les 3 ateliers de production avec eux, c'était chouette. C'était aussi un challenge hein, parce que les petites sections n'ont pas une grande dextérité. Il a fallu trouver quelque chose qui leur. Ils trouvent un intérêt eux et puis nous aussi. Mais c'était chouette, ça a été très réussi. On travaille aussi sur les jardins partagés pour, par exemple, la vannerie, pour l'herboriste, où elle propose elle aussi des ateliers donc sur les jardins de la commune. Il est question aussi peut-être de travailler avec le RPA, donc c'est les résidences des personnes âgées. On a aussi sur 2 ans intervenu sur les temps d'activité périscolaire après l'école. Donc en fait, c'est selon aussi ce qui nous est proposé. Nous, on donne du temps, chacun à sa manière. C'est écrit en amont avec la mairie. On fait des prévisionnels de ce que nous, on peut faire. Et aussi, on crée des événements. Le but aussi, c'est de faire vivre le village. C'est une jolie bastide, d'amener les gens. Que ça vive et de faire découvrir l'artisanat, notamment l'artisanat d'art et les métiers de production. On a une maraîchère qui fait l'attraction animale, donc on a une herboriste et des cosmétiques naturelles, donc elles se servent de leurs plantes pour faire des savons et des onguents, enfin plein de choses, et un apiculteur. Du coup, donc c'est un échange avec la commune, et nous ça nous va bien parce que on n'a pas la pression de absolument devoir gagner le montant du loyer. Donc on est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus pérenne aussi comme manière de faire parce que je pense qu'on là ça fait 5 ans qu'on est arrivé ici, on n'aurait pas tenu aussi longtemps. Je pense que ou alors il y aurait eu beaucoup plus de va-et-vient chez les artisans, c'est compliqué. Il y en a qui gagnent bien, il y en a qui gagnent très peu. C'est pas du tout équitable à ce niveau-là et on pouvait pas demander aussi le même loyer aux personnes. Donc là, ce qu'on a décidé aussi depuis quelques temps, c'est que chacun paierait son loyer. Enfin, donc du coup, on a les charges du bâtiment quand même. Chacun donnerait au pourcentage de sa vente. Donc on vend, ouais. On donne de l'argent. On ne vend pas, on n'en donne pas.
Au-delà de la sécurité financière, enfin, de ce que ça apporte en termes de cadre de travail, etc., moi, j'ai aussi vu un peu dans la boutique qu'il y avait des choses que vous faisiez en commun.
Oui.
Et ça, niveau créativité, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des artisans qui ont des savoir-faire différents et vous pouvez créer des pièces ensemble ou des projets ensemble.
C'est ça. Et du coup, moi, j'ai partagé pendant 2 ans l'atelier avec le souffleur de verre et on a fait des lampes, des boîtes, on a créé plein de choses ensemble. Il y a la maroquinière et son compagnon qui fait des bijoux en métal, argent et laiton. Tous les deux aussi font des créations communes. Moi, je travaille avec la potière, mais là, c'est plutôt... Elle m'accompagne sur mes créations en poterie, en fait, parce que je mélange la terre et la calebasse. Donc là, c'est plutôt de la transmission qu'elle me fait. La vannière, elle, a fait la même chose avec elle. Elle lui a transmis certains savoirs pour qu'elle intègre de la vannerie dans ses poteries. Donc ça passe pas que forcément où chacun va amener un bout de son savoir-faire ou de sa création et le mettre ensemble. Mais ça peut passer aussi par des échanges de savoir-faire entre nous. Et du coup, oui, il y a tout un mélange. Et puis selon la sensibilité qu'on a ou ce qui peut aller les uns avec les autres, on aime créer ensemble. Puis c'est comment ça amène des objets encore plus beaux en mélangeant les matières.
Puis ça doit faire un espace de travail hyper effervescent. Il se passe plein de choses, quoi.
Oui, les 2 ans qu'on a partagé là, avec le souffleur de verre, on n'a pas réussi à aller au bout de toutes nos idées. Il est parti avant qu'on arrive à tout faire. Mais on continue. Il est en Ariège maintenant et on continue quand même à créer, faire des choses ensemble quand il revient. C'est très agréable et même... même pas que avec le collectif d'ici, mais des gens que je vais rencontrer sur des salons d'art ou des festivals et dont je vais aimer leur création. Des fois, je vais leur proposer de faire des collaborations aussi, c'est possible. Outre notre collectif, je trouve qu'il y a plein de beaux savoir-faire partout et c'est ça qui est intéressant, c'est de mêler tout ça.
Est-ce que le collectif est encore ouvert à d'autres artisans, de faire venir d'autres artisans ou bien quand même 14.
Ouais, pour l'instant on est 14. On veut pas de doublons. On veut pas par exemple 2 potiers, on veut pas 2 personnes qui vont travailler on est dans un petit village donc ça draine pas énormément de monde et on a un peu de touristes l'été, mais on n'engrange pas assez d'argent pour avoir encore plus d'artisans sur la boutique. 14, c'est bien, chacun a son espace, la boutique est grande quand même, donc c'est important que chacun se sente bien dans l'espace qu'il occupe. Au niveau des permanences, on tourne, donc à tour de rôle, et on fait à peu près 2 à 3 permanences par mois. Donc on n'a pas besoin de plus ou de moins. Ça voudrait dire qu'il y en a qui viendraient peut-être qu'une seule fois. Je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, on perd le fil de ce qui se passe dans le collectif en ne venant que très peu. Donc là, on a un bon équilibre. On a une belle représentation de plusieurs métiers. On n'a pas besoin d'autres personnes. Mais par contre, quand on a un départ, on cherche quelqu'un, oui. Et au départ, on était 6. Et là, c'était lourd hein, au niveau des permanences, de tout ce qu'il fallait faire, monter donc, l'association, le collectif, enfin tout. Et là, à 14, maintenant, ça roule. Entre 12 et 14, on est bien. Donc non, on ne cherche pas de nouvelles personnes.
Super, c'est génial. Et moi, je voulais parler un peu... Est-ce que, du coup, pour ton métier à toi, l'aspect financier, d'être aussi dans le collectif, est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que, du coup, tu arrives à en vivre de ton métier ?
Alors, oui, moi, je vis que de ça. C'est un choix de vivre différemment. Si je vous disais combien je gagne par mois, la plupart des gens penseraient qu'on ne peut pas vivre avec ça. Moi, je vis bien. Alors déjà, parce que je n'ai pas ce poids-là d'avoir des loyers exorbitants d'atelier. Avec mon compagnon, on essaye d'être autosuffisant. Donc, on a notre jardin, on a une maison en terre et en paille. Donc, on mène une vie qui soit peut-être le plus écologique et simple possible. On a des animaux. Qu'on mange aussi. on n'a pas non plus... on ne met pas des sommes folles dans notre alimentation. On ne voyage pas beaucoup. Prendre l'avion, pour moi, ça reste maintenant, à l'heure actuelle, une aberration de partir, d'aller dans des grands hôtels. On a fait d'autres choix. Pour moi, vraiment... de vivre simplement avec... Et puis, il y a la récup, hein. Franchement, on peut avoir plein de choses en récupérant. On vit simplement. On a 2 enfants. Ils vivent très bien. Hein. Et voilà, ils sont heureux. c'est vivre simplement, avoir du temps pour eux. Et puis, essayer d'être dans une démarche environnementale... et écologique le plus possible, et surtout pour mes enfants.
Oui, ça se comprend totalement. Et du coup, au-delà de ça, tu as du temps pour toi. Tu parlais de... Oui, tu voulais passer du temps avec tes enfants. Et est-ce que là, avec du coup, pareil, l'organisation du collectif et de ce que tu fais, tu arrives à prendre du temps pour toi, ou même pour la famille, etc.
J'ai le temps de les amener le matin à l'école, ils vont jamais à la garderie, je vais les chercher le soir à l'école. Ils ne vont pas non plus le mercredi en centre de loisirs. Alors aussi, c'est une réflexion, donc ils ont été très peu à la crèche, un petit peu quand même pour se sociabiliser, mais c'était de ne pas avoir toutes ces dépenses-là. En fait, en élevant mes enfants, en les allaitant, en préparant leur petit pot quand ils étaient petits, en passant du temps avec eux. Là, en fait, c'est beaucoup de frais qu'on a réussi à enlever aussi. Et du coup, on peut vivre comme ça sans beaucoup d'argent. Alors, je peux des fois avoir des moments où je vais énormément travailler. Avant Noël, là, c'est des grosses journées, des fois, voire de 12 heures pour produire assez. J'ai des bons coups de bourre. Là, en ce moment, par exemple, je vais aller dans une autre boutique aussi en dépôt-vente. Je prépare 2 expos sur cet été. Donc, il faut que je multiplie mon stock par 4. Et en ce moment, il faut que je produise. Et je peux être amenée à aller sur des expos les week-ends, et donc ne pas être chez moi le week-end. Mais ça, c'est un choix que je fais et qui ne me dérange pas. Moi, je ne vais pas travailler le lundi avec la boule au ventre en me disant « Oh là là, il faut que je fasse mes heures ». Et puis, en fait, je ne sais même pas combien d'heures par semaine je fais.
Ça peut être des fois 20 heures, ça peut être 45 heures, je n'en sais rien. Ça dépend du temps, enfin du moment, de l'année. Et je ne sais pas non plus à quoi ressemblera mon année prochaine. Mon temps se fait un peu en fonction des rencontres que je vais faire. Là, par exemple, donc, j'ai rencontré 4 créatrices qui m'ont proposé d'exposer avec elles à côté du Jazz in Marciac. Et j'ai dit oui. Et puis, c'est une des expos de cet été. Et il y a encore 2 mois, je ne savais pas que je ferais ça. Donc c'est au fur et à mesure des rencontres, de ce que je reçois aussi comme demande pour des marchés. Et puis maintenant, ça fait presque 10 ans, donc je trie un peu où je veux aller et ce que je veux faire.
Mais je pense que ça vient aussi un peu avec le temps. Au début, souvent quand on parle avec des gens qui viennent de s'installer, ils ont besoin de monter leur stock, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir vendre, même s'ils ont réduit leurs charges, comme tu dis, ils ne savent pas s'ils vont quand même avoir suffisamment d'argent, c'est un peu un stress, etc. au moment de l'installation, j'imagine. Tu es peut-être passé par là, et en fait après, au fur et à mesure du temps, tu finis par rentrer dans les clous et trouver un équilibre.
Oui, je trouve que je suis beaucoup plus sereine maintenant parce que je sais à peu près à quoi m'en tenir. Après, moi, je n'ai jamais vécu avec beaucoup d'argent. Et quand j'étais étudiante, j'avais 3 jobs, enfin, des trucs qui ne payaient pas, enfin, comme les vies d'étudiant, quoi. Et en fait, j'ai appris à vivre comme ça. Je suis une adepte du système D. Par exemple, je cultive mes fleurs pour faire mes crèmes, je fais mes produits ménagers, je récupère la cendre de ma cheminée pour faire ma lessive. Enfin, ça aussi, ça s'ajoute à du temps, mais c'est une manière de vivre qui fait que, j'ai pas trop besoin d'argent, donc en fait... ça va, je reste assez sereine. Bon, après un petit peu quand même, c'est bien, hein, parce que...
Alors moi, j'ai une question un peu polémique.
Non, vas-y.
Tu nous exposes ce mode de vie qui est un truc vers lequel moi, j'ai envie d'aller. Enfin, je comprends très bien cette façon de voir les choses, tu réduis tes dépenses, etc. Et à l'inverse, tu fais des créations qui sont, on va dire, plutôt de la décoration. Et je pense que tu passes quand même pas mal de temps dessus, donc ça n'est pas donné forcément. Est-ce que tu as réfléchi ou tu penses à qui je propose mes créations et est-ce que tu reposes sur des gens, des clients qui sont, on va dire, riches, qui ont des métiers où ils bossent, 40 heures par semaine dans un bureau, etc. Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Est-ce que c'est un truc qui te prend la tête ou pas trop?
Non, alors maintenant, je cerne un peu le public qui m'achète ça. Ouais. Alors, ici, là, à Softair, on est quand même dans une classe sociale pas très riche.
Ouais.
On est plutôt, entre pas très riche et moyen. Après, les gens qui m'achètent mes créations, souvent c'est quand même réfléchi. C'est des gens qui ont peut-être vu plusieurs fois ce que je faisais et qui, à un moment donné, vont craquer. Ou alors, par exemple, des gens qui vont refaire des travaux chez eux ou refaire une chambre et se dire, tiens, on va mettre un peu de déco. Après, donc, je rentre pour eux dans une éthique un peu écologique du fait qu'ils vont acheter un produit local, un produit fait de manière naturelle et qu'en plus, j'aurais cultivé moi-même dans mon jardin. Je pense que les gens, quand ils passent le pas, ils savent pourquoi ils l'achètent. Et je ne vends pas, je pense, à des gens qui ont beaucoup d'argent. Et même souvent, c'est assez mignon, j'ai deux, trois grands enfants qui vont acheter une lampe pour leur mère parce que ça fait des mois qu'elle passe devant. Et donc, c'est le moment de son anniversaire et ils vont se mettre à plusieurs pour lui faire ce cadeau. Donc, ça arrive souvent.
Ok.
Et après j'ai des prix bas, enfin j'ai des petits objets, donc on peut faire des cadeaux à moins de 30 euros avec les photophores, les boîtes, les petits objets comme ça. Après c'est sûr que les lampes sont plus chères, mais les lampes je les vends plus déjà au moment de Noël.
Ouais.
C'est un moment aussi où les gens sont plus dans leur intérieur et vont avoir envie de créer des jolies ambiances chez eux. Après, j'ai des lampes très chères, elles sont toujours là depuis longtemps. Hein.
Oui.
J'ai pas réussi à les vendre. Hein.
C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai qu'on en a parlé avec d'autres artisans, et ça rentre aussi dans le choix de où est-ce que tu vas exposer, est-ce que, je sais pas, Enfin, ça m'étonnerait que tu me dises « Ah bah tiens, on m'a proposé de faire un stand aux Galeries Lafayette à Paris, j'y vais », enfin tu vois.
Alors déjà, genre de choses là. J'aimerais aller sur Paris, pourquoi pas, hein. Je sais qu'il y a du potentiel. Après, pour moi, c'est aussi un coût. Ouais. Prendre peut-être ma voiture, d'amener mes créations là-bas, de démarcher, à savoir aussi combien ils prennent de pourcentage sur les ventes. Donc j'ai fait une expo une fois à Paris. Et au final, ben, pour moi, ce n'était pas rentable.
Ouais.
Parce que la quantité d'argent que j'ai dû débourser pour le faire, et donc en fait, tout ça, c'est des créations données pour pouvoir après me payer. Et je trouve ça dommage, en fait, de donner toutes ces créations.
Ouais, ça ne rentre pas dans l'éthique. Donc,
ouais, non, je reste dans les départements autour. Et c'est bien, il y a suffisamment de choses, donc je gravite entre la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Gironde, du coup.
Est-ce que tu pourrais, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait commencer l'artisanat ou quoi, est-ce que tu aurais un conseil
Oui, et ben déjà c'est de se lancer. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Je trouve que la question de l'argent reste un peu trop en tête. Et les gens n'osent pas sauter le pas parce qu'ils ont peur de ne pas gagner leur vie. Mais comme je disais, on peut vivre différemment, ce n'est pas grave. Et le but, en fait, c'est d'être en accord avec soi-même, avec la manière dont on veut vivre. Et il faut y aller. Et si on vit de sa passion... Ben, en fait, c'est plus vraiment un métier. En fait, chaque jour est un plaisir. Moi, j'aime inventer de nouvelles choses, de nouvelles créations, réfléchir, Et en fait, c'est ça qui est agréable, en fait, c'est d'avoir toujours des envies et d'avoir toujours des idées et de continuer. Et après, le reste, c'est pas grave tant qu'on vit de ce qu'on aime. Je pense que c'est ça le plus important. Les gens qui vont gagner beaucoup d'argent dans leur métier, mais qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes, je ne sais pas s'ils sont très heureux dans leur vie. Je suis très heureuse dans ma vie.
Bah, du coup, en parlant de bonheur, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moment que tu préfères dans ton processus de création ? Est-ce qu'il y a un moment où tu dis « Ah, trop bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je suis contente de revenir à cette étape ».
C'est
plus un ensemble.
Non, c'est un ensemble parce que j'ai beaucoup d'étapes. Déjà de cultiver à tous les printemps, j'adore ressortir dans mon jardin, faire les semis, les voir pousser. Déjà rien que de voir une graine germer et sortir de terre, c'est Noël, c'est magique de voir la nature œuvrer comme ça. Et donc déjà, voilà, voir pousser mes calebasses, ça, je trouve ça fantastique. Après, c'est un peu l'attente de savoir qui va bien sécher, qui va pas bien sécher, est-ce que je vais avoir des pertes ou pas. Je suis un peu tributaire de quelque chose de naturel, donc je sais pas combien j'en aurai, s'il va faire trop chaud, trop froid. Donc à chaque fois, c'est un peu... c'est jamais la même chose. En fait, on s'ennuie pas, c'est jamais la même chose. Et puis après, de trouver des nouveaux dessins, des nouvelles idées, d'imaginer qu'est-ce que ça va pouvoir donner en lumière. J'ai appris le montage de l'appareil électrique et tout ça. Et il y a un des moments qui est quand même assez agréable, c'est le moment où je l'allume, la lampe. Et là, c'est la magie. Je vois le rendu final de ma création. Et ça, c'est quand même un peu la petite cerise sur le gâteau. Ouais, c'est la petite récompense de voir que mon objet, déjà, il me plaît, je le trouve beau. Et j'espère, du coup, après, quand je le descends en boutique, il plaira aussi à d'autres gens. Bon, généralement, ça va. Je crois. Je le peaufine avec le temps, mon style. Et les gens sont assez réceptifs à ce que je fais. Donc, au moins, ça prouve que je suis sur la bonne voie et que, voilà, je travaille bien.
Est-ce qu'on passe à la dernière question ?
Oui, je pense que oui.
Bon, alors, notre sujet, c'est les métiers manuels. On parle avec plein de gens qui travaillent avec leurs mains. On voudrait savoir qu'est-ce que tu voudrais nous dire de tes mains ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire.
Je suis contente de les avoir. Et mes yeux aussi. Important. le regard que l'on porte aussi sur son objet. Non, mes mains, bah, c'est bien. Comment ? Elles travaillent finement. Et en fait, non, je pense que c'est un tout. C'est pas que les mains, en fait, c'est les yeux, le cerveau, les mains, le cœur aussi, parce que bah, les artisans, quand ils font un objet, je pense que c'est un peu une part d'eux-mêmes qui sort, en fait, et qui va se créer à travers l'objet. Et c'est ça qui fait que c'est des beaux objets, et c'est ça qui fait que j'aime l'artisanat d'art, c'est que ce n'est pas un objet sans vie, en fait. C'est un objet qui a une histoire, c'est un objet qui a été pensé, qui a été réfléchi. Et du coup, ça va au-delà de juste une lampe ou de juste une boîte, en fait. Il y a eu tout un processus, il y a eu une émotion qui est passée à travers l'objet et qui a été, comment ? C'est du cerveau, les yeux, les mains, tout ça, qui est sorti devant moi comme ça.
C'est un flux.
Ouais, c'est un flux d'énergie et de passion. Et voilà, et c'est ça que je trouve magique. Et c'est ça que j'aime aussi quand je vais voir. Par exemple, il y a une potière juste, qui a son atelier juste au-dessus de moi. C'est incroyable de voir qu'une boule de terre peut être modelée, façonnée, et puis devenir quelque chose. Et puis d'un coup, un mauvais geste, et hop, tout s'écroule. C'est assez incroyable de voir ça. Et ce que j'aime aussi chez les artisans d'art, c'est le temps. On ne va pas essayer de faire vite. On va prendre le temps de faire notre objet bien comme on aimerait qu'il soit. Je pense que la plupart, on est quand même des gens consciencieux qui prenons le temps de bien faire. Vraiment, l'importance du savoir-faire, c'est ça. Ça passe surtout par bien faire les choses. Et la finition, ça, c'est vraiment le plus important. Une belle finition, que tout soit impeccable. Et là, on a un objet qui est beau et qui... Je ne dirais pas qu'on cherche la perfection, parce que demander à chaque créateur, il trouvera chaque défaut de sa pièce. Hein. Je pense qu'on est incapables tous de... Enfin, on connaît tous nos petits défauts. Mais on cherche en tout cas une sorte de perfection.
Mais on peut dire que s'il est presque parfait pour toi, il va être parfait pour la personne.
Alors
qui
les gens ne voient pas, oui.
C'est ça. Ouais, je pense que c'est cette perfection-là qu'on cherche.
C'est ça. Les gens vont venir dire ah ouais, oh là, c'est beau. Puis moi je dis ah mais non, mais là vous voyez, il y a un petit truc qui ça me plaît pas. Puis là j'ai raté un peu, mais non en fait il y a que moi parce que j'ai passé du temps à faire chaque petit trou un par un. Puis après oui aussi c'est un côté méditatif, je pense les métiers d'art. Ça peut être quelque chose de très apaisant. Hein. Moi, je suis assez bruyante, poussiéreuse, ça fait des trous, ça fait des bruits, ça fait... Bon, bref. Mais en fait, je rentre dans une sorte de méditation à chaque fois que je travaille. Et j'ai du temps de penser aussi. Je pense qu'on pense beaucoup aussi quand on crée. C'est des moments très agréables, la création.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci bien. Merci d'avoir écouté Les Mains Libres épisode 15 en compagnie d'Amélie. Si tu as aimé cette discussion, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire pour aider à faire connaître Les Mains Libres. Cet épisode a été financé par Anne Pichoron, alors merci encore pour ton soutien. Dans le prochain épisode, on restera dans le même secteur, à la rencontre de Marie, qui cultive de l'osier et ramasse des plantes sauvages pour fabriquer des paniers. Allez, à bientôt.